Nous vous recommandons de ne pas modifier pendant l'écoute le réglage.
Je capte plus rien.
C'est déjà assez difficile sur la fréquence micro-ondes, mais sur la fréquence modulée avec toutes ces interférences, j'ignore pourquoi je t'écoute.
Vous écoutez Allegre FM.
Il s'agit au contraire de redonner à cette notion de service public son véritable sens.
93.1.
Pourquoi ne pas chercher une aiguille dans une botte d'aiguille?
01 40 24 29 29.
Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux et détendez-vous le plus possible.
Voilà, maintenant vous pouvez arrêter la télévision, vous verrez, ça fait du bien.
Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Oh là là, qu'est-ce qui nous arrive? Où en sommes-nous aujourd'hui? Ah oui, ça y est, bien sûr. Où avais-je la tête? C'est l'heure de l'émission. Séverine Rinaldi, pour vous, quel est l'endroit idéal comme lieu de vie? La ville ou la campagne?
Si je suis vraiment honnête, la campagne.
Et vous, Marine Veller, même question? La ville ou la campagne?
C'est dur de choisir, j'ai grandi à la campagne, mais je suis un peu tombée amoureuse de la ville, donc un combo des deux, je suppose.
En voici des questions qui vont nous amener à nous en poser plein d'autres durant les 56 minutes qui vont suivre. Mais avant d'entrer un peu plus loin dans le détail, c'est tranquillement, car nous avons le temps, que nous allons donner du temps au temps pour vous permettre de découvrir progressivement où nous sommes et pourquoi nous y sommes. Allez, je vous en dis pas plus, en route vers de nouvelles aventures.
Bonjour, vous savez où vous êtes? Eh bien, vous êtes sur la messagerie de l'émission L'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Allegre FM 93.1. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Au bip, vous laissez votre message.
N'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères auditrices, chers auditeurs. Bienvenue dans l'étincelle dans la ville sur Allegre FM et nous sommes très heureux de vous retrouver. Marine Veller, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Séverine Rinaldi.
Bonjour.
C'est avec vous que nous allons mener ensemble cette émission. Vous avez accepté de bien vouloir nous recevoir afin de nous permettre de recueillir vos témoignages aujourd'hui à propos de l'école Être. Alors je fais une pause en disant école Être, parce que c'est vrai que c'est une voyelle, le E, et parfois au niveau de la prononciation, c'est pas toujours évident. Mais l'école Être, en réalité, on va faire plus simple, c'est l'école de la transition écologique de Paris. C'est ce qui est marqué sur les affiches que vous avez apposées partout. Nous sommes actuellement au tiers-lieu Césure, 13 rue de Santeuil à Paris, dans le 5e arrondissement, donc dans cette école, qui propose une formation professionnalisante, agriculture urbaine et durable. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous anime, et comme le veut la tradition dans cette émission, sachez que tous nos invités, vous en faites partie dorénavant depuis ces quelques secondes, qui vont intervenir, eh ben, vous êtes devenus les étincelles de cette émission, tout simplement les étincelles dans la ville. Séverine Rinaldi, vous êtes chargée de l'accompagnement socio-professionnel à l'école Être Paris. Les écoles de la transition écologique Être, E-T-R-E, en réalité c'est un acronyme, forme un réseau d'associations sur le régime de la loi de 1901. Ces écoles sensibilisent et forment des jeunes âgés de 16 à 25 ans en situation de décrochage scolaire, en recherche d'orientation ou tout simplement en quête de sens. La première école Être, devenue l'école pilote du réseau, fut créée en 2017 à La Hague, en Haute-Garonne. Être vise à remobiliser ces jeunes, à les rendre acteurs de la transition écologique et à les former aux nouveaux métiers verts et verdissants. Notons que près de 100 000 jeunes sont déscolarisés chaque année en France. Selon l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, 340 000 emplois dans la transition écologique seront créés d'ici 2035. Frédéric Matisse, le fondateur de Être, résume ainsi les choses. Nous avons créé une école pour les jeunes qui n'aiment pas l'école, en réponse au double enjeu de la transition écologique et pour lutter contre la déscolarisation. Les écoles Être, en collaboration avec les régions, les départements, les missions locales, le tissu associatif local et les entreprises locales, proposent des programmes de remobilisation de formations adaptées aux besoins locaux. Le but est de permettre à ces jeunes d'accéder à l'insertion sociale, citoyenne et professionnelle. En 2025, on comptait 33 écoles actives, être réparties sur toute la France métropolitaine, formant plusieurs centaines de jeunes par an. Séverine Rinaldi, vous êtes chargée de l'accompagnement socio-professionnel à l'école de la transition écologique de Paris. Vous pouvez nous présenter l'école Être plus en détail et nous parler de ses missions.
Oui, bah vous avez fait une très très belle introduction. Déjà, merci, vous êtes bien renseignée sur la question. L'école de la transition écologique de Paris propose aux jeunes de 16 à 25 ans, parisiens, de se former, enfin de découvrir, on va dire, plutôt, et de se former par la suite quatre thématiques. Les métiers qui sont liés au métier du bois, donc l'ébénisterie, la menuiserie, la charpente, l'aménagement, l'agencement. C'est un format de formation qui dure 3 mois. Ensuite, il y a une formation qui est professionnalisante autour des métiers de l'agriculture, donc le maraîchage, l'élagage, le jardinage, tous les métiers liés au vivant, avec un petit focus urbain parce qu'on est situé à Paris. Ensuite, il y a une formation, celle qui est en cours actuellement, qui forme un groupe de 12 jeunes au métier des énergies renouvelables. Donc, ils découvrent en pratiquant les métiers de technicien installateur de panneaux photovoltaïques. Il y a aussi un focus sur l'éolien. Donc, voilà, tous les métiers, on va dire, autour des énergies renouvelables. Et on a aussi un format qui est en général proposé en septembre, qui permet aux jeunes de découvrir ces trois thématiques, et on y ajoute le volet réparation cycle.
Alors, nous sommes en pleine ville, en plein Paris, dans le 5e arrondissement, et vous proposez une formation en agriculture urbaine. Concrètement, c'est quoi la formation en agriculture urbaine? C'est toujours très opposant. L'urbain et l'agriculture, en général, ça se fait à la campagne, mais là, vous avez un cycle de formation dans ce domaine. Marine Veller, vous voulez répondre à cette question?
Oui, alors évidemment, c'est un enjeu qui existe quand même. Ce n'est pas du tout des métiers agricoles tels qu'on les connaît en milieu rural. C'est des surfaces beaucoup plus faibles, mais il y a un enjeu quand même de médiation aussi avec les citoyens, de faire vivre les projets agricoles, les projets de végétalisation dans la ville, parce que y a plein de personnes qui n'ont pas accès à ça. Et il y a des activités de production, évidemment, de plus petits volumes, mais aussi de transformation de produits. Voilà, que ce soit dans l'animation, dans la production, la transformation, nous on accompagne les jeunes pour leur faire découvrir des métiers qui sont, voilà, il y a des maraîchers urbains, des pépiniéristes, des micro-fermes, maître composteur ou compostrice aussi, c'est un nouveau métier de valorisation des biodéchets qui est super important. Et voilà, il y a de quoi faire pour des jeunes qui veulent travailler en milieu urbain ou qui après, vu qu'on est quand même dans le réseau francilien, peuvent s'orienter vers des exploitations qui sont pas très très loin de la ville dans tous les cas.
Un premier pas pour se former de cette façon en pleine ville sur l'agriculture, avec l'agriculture urbaine, et peut-être une façon pour certains de pouvoir après s'expatrier à la campagne ou continuer leurs activités sur la ville. On va d'ailleurs l'aborder, cette histoire de ferme urbaine. Pour les fidèles de l'Étincelle dans la ville, nous avons déjà réalisé plusieurs émissions avec certaines fermes urbaines. On va en parler un petit peu plus loin. Alors, revenons aux élèves de votre école. Quels sont les profils? Qu'est-ce qu'il faut pour entrer dans votre école? Faut un niveau, faut le bac, faut quoi? Faut savoir lire et écrire, je pense quand même. Racontez-nous, qui veut répondre à cette question? Marine, Séverine? Marine?
Marine, oui, je veux bien répondre pour revenir peut-être sur un terme qu'on a cessé d'employer dans l'introduction, même si voilà, on a pu l'employer avant, qui est le terme de décrocheur scolaire. En fait, pour qualifier un petit peu notre public, évidemment, il y a des jeunes qui sont en difficulté ou qui se remettent en question par rapport à leur parcours scolaire. Mais en fait, on a trouvé trouvé que c'était réducteur par rapport à notre public et parfois stigmatisant, parce qu'il y a pas mal d'études qui ont montré aussi que les, en fait, le décrochage scolaire, il est plurifactoriel et il n'est pas toujours lié d'ailleurs à des résultats scolaires qui sont mauvais. Généralement, ils sont moyens, voire bons, mais en fait, c'est une orientation qui est subie. Et c'est là que c'est pertinent ce qu'on offre, parce qu'on propose de tester sur des conditions réelles certains métiers, certaines filières. Et donc, le profil, ce sont des jeunes qui sont ni en études, ni en formation, ni en emploi, et qui sont, alors on va dire, c'est le terme un peu institutionnel, éloignés de l'emploi. Donc il y a évidemment le niveau de qualification qui est un indicateur de l'éloignement de l'emploi, mais il y a aussi des difficultés telles que la mobilité, le logement, la santé mentale, on le voit beaucoup, beaucoup, la santé physique aussi, le handicap, bref, plein de situations, et ma collègue Séverine en parlera mieux que moi parce que c'est elle qui réalise l'accompagnement. Mais nous, donc, on accueille tous ces jeunes-là avec divers profils. Le prérequis, c'est simplement cette question d'âge et il faut être en capacité d'ailleurs de pouvoir poursuivre la formation, l'intégration dans une formation certifiante, un emploi et évidemment un intérêt pour les secteurs qu'on fait découvrir. Mais il n'y a pas du tout de prérequis techniques. Il n'y a pas de niveau d'entrée et pas besoin d'avoir déjà pratiqué les compétences qu'on va faire découvrir.
Alors, qu'on y voit plus clair, quel est l'âge minimum et l'âge maximum pour pouvoir être apprenant dans l'école être. Séverine Rinaldi, vous répondez à cette question ?
Bien sûr. Donc, les jeunes qu'on accueille ont entre 18 et 25 ans. On peut accueillir des jeunes qui ont 29 ans s'ils ont une RQTH.
Alors, on va détailler cet acronyme. Qu'est-ce que c'est
C'est une reconnaissance en tant que travailleur handicapé.
Voilà. Alors, pour l'âge, ça y est, on y voit plus clair. Et alors, pour le niveau, il y a un niveau scolaire, il faut avoir le bac, il faut avoir un CAP. Racontez-nous, qui veut répondre à cette question ? Marine ?
Oui, il n'y a pas de niveau d'entrée. Nous, on a la moitié du public généralement qui n'a pas le niveau bac en arrivant, voire parfois pas le brevet. En tout cas, il n'y a aucun prérequis sur le niveau scolaire, niveau de qualification à l'entrée.
Voilà, la motivation.
La motivation, exactement.
Voilà, la façon d'entrer, c'est comme ça dans votre école. Vous enseignez différentes matières, vous l'avez un petit peu détaillé au début de cette émission. Comment vous faites pour marier la théorie et la pratique en pleine ville pendant ces formations? Je pense notamment à l'agriculture. Où sont les champs? Où sont les prés? Où sont les fermes? Où sont les vaches et les cochons à Paris? Qui veut répondre à cette question? Marine? Séverine? Marine?
Alors du coup, on a la chance depuis l'an dernier d'avoir un jardin potager en plein cœur de Paris, dans le 14e. Il est au pied d'un centre d'hébergement d'urgence. Donc c'est un terrain d'expérimentation pour les jeunes. Ils font de la conception, de l'aménagement, de la plantation, de l'entretien de cet espace. Et ensuite, l'idée, c'est de permettre aux jeunes de découvrir les différents projets menés à Paris et en Ile-de-France autour de l'agriculture urbaine. Donc on a un réseau de partenaires chez qui on va à la rencontre des professionnels pour mieux comprendre le métier, les missions, et puis mettre les mains dans la terre, faire avec eux sur un jour, deux jours, trois jours, ce qui est programmé de faire. Voilà, pour se rendre compte des vraies conditions de travail, échanger avec des gens dont c'est le métier.
Alors les mains dans la terre, oui, c'est le cas pour les formations dans l'agriculture. Et on verra un petit peu en détail, vous nous donnerez sur les autres formations que vous avez évoquées, la menuiserie. Bon, alors, pour l'instant, si vous me le permettez, nous allons faire une première pause musicale. C'est comme ça, on fait des petites pauses. La chanson que nous allons écouter aborde le thème de la drogue et constitue un message de prévention à destination des jeunes. L'auteur, compositeur, interprète de cette chanson y dénonce les dangers des stupéfiants et interpelle les enfants de la chance, c'est comme ça qu'il les appelle, qui n'ont pas encore été touchés par les addictions et par la consommation de drogue. Nous sommes en 1986. Le photographe et réalisateur Jean-Marie Perrier crée et réalise un spot publicitaire de prévention. Ce fut le premier en France, qui a pour titre « La drogue, c'est de la merde ». Et il demande au chanteur d'écrire une chanson sur le sujet, sujet qu'il connaît bien, puisque sa dernière campagne avait des problèmes de drogue au début de leur relation. D'ailleurs, 2 ans avant la naissance de leur fils Lulu, l'auteur, interprète, compositeur de cette chanson demande à sa compagne d'arrêter la drogue complètement, car selon la jeune femme, dans un entretien qu'elle a accordé aux Inrecuptibles, il lui avait raconté qu'il connaissait des gens qui étaient morts très jeunes à cause de la drogue. Le morceau a pour titre « Aux enfants de la chance ». C'est interprété et composé par Serge Gainsbourg. Shoot. Shit. Shoot.
Shit. Shoot. Aux enfants de la chance qui n'ont jamais connu les trans des shoot. Et du shit. D'ange, angel dust, en shoot, ou en shit. Zéro, héros, à l'infini, je dis, dites-leur, et dis-leur, de casser la gueule aux dealers, qui dans l'ombre attendent leur heure, l'horreur de jamais connu les trans des
shoot.
Et du
shit.
Je dirais substance. Ceci, ne commettez pas d'imprudence. Surtout n'ayez pas l'impudence. Vous foutre en l'air avant leur dite. Comme Samantha et dites. Et dites. Je dis, dites-leur et dis-leur de casser la gueule. Ou dis-leur.
Bien, vous êtes sur la messagerie de l'émission L'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Aligre FM 93.1. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Au bip, vous laissez votre message.
Messagerie, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Le morceau que l'on vient d'écouter a pour titre « Aux enfants de la chance », interprété et composé par Serge Gainsbourg. Vous êtes toujours dans l'étincelle dans la ville sur Aligre FM. Et pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que nous sommes à l'école de la transition écologique de Paris, ÊTRE, qui organise des formations en agriculture urbaine et durable, mais pas que d'ailleurs. École située dans le tiers-lieu à Césure, à Paris, dans le 5e arrondissement, 13 rue de Santeuil. Vous restez bien avec nous pour cette deuxième partie, avec nos invités, Marine Veller, Séverine Rinaldi. Alors, l'univers de la transition écologique et tout particulièrement les formations professionnalisantes agriculture urbaine et durable. Vous nous en parlez depuis le début de cette émission. En première partie, nous avons posé une série de questions. Vous nous avez expliqué comment ça fonctionne. Je rappelle que donc, vous les accompagnez, ces jeunes et ces moins jeunes, parce qu'il n'y a pas non plus que des très très jeunes. Mais revenons à Paris, si vous me permettez. Pour les fidèles de l'étincelle dans la ville, nous avons consacré plusieurs émissions sur des fermes urbaines, notamment à l'école Côte-Chévert, rue Côte-Chévert, située sur la terrasse de cette école dans le 18e, gérée par l'association Veni Verdi. Nous nous sommes aussi rendus au jardin partagé Georges Boudry, géré par l'association CED13. Nous sommes même allés rendre une petite visite aux fourmis dans le 13e, juste à côté. Et progressivement, on assiste, en tout cas c'est l'effet que ça m'en fait, à l'éclosion d'espaces urbains où se développe une agriculture urbaine et durable, que ce soit à Paris ou dans les grandes et petites métropoles. Séverine Rinaldi, quels sont les principaux enjeux de l'agriculture urbaine à Paris aujourd'hui? Qui veut répondre? Ah, je vois que vous faites signe, c'est plutôt Marine.
Cet enjeu, il y a, comme je disais, il y a un gros enjeu. Alors il y a évidemment de la production comme on le disait, mais à plus petite échelle qu'en milieu rural, il y a un gros enjeu d'animation et de médiation, je trouve, et c'est quelque chose que voilà, transmet pas mal la formatrice aux jeunes qu'elle accompagne sur le terrain. C'est-à-dire que c'est faire connaître, faire ce lien justement entre le milieu agricole, le milieu naturel, cette activité et des jeunes urbains qui ont, généralement, et c'est pas un cliché de dire ça, c'est vrai que la première approche parfois c'est via l'industrie agroalimentaire, on voit ce qui arrive dans nos assiettes, on voit pas vraiment comment c'est produit en amont. Donc il y a tout ce travail déjà de sensibilisation et de connaissance en fait de ce que dit souvent notre formatrice dans ce secteur. Là, c'est que les formations, elles sont pensées de la graine à l'assiette. C'est vraiment prendre conscience de la façon dont on se nourrit, comment on fait pousser les plantes, que ce soit à destination alimentaire ou pas. Hein, mais voilà, il y a ce gros travail-là. Et donc, c'est un enjeu, il y a une contrainte un peu créative parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc, c'est comment on arrive à faire pousser du végétal quand on a peu d'espace. On devient créatif, on verticalise, on fait des associations et des cultures. Des choses qui potentialisent, maximalisent la façon de produire, de faire pousser. Il y a quand même beaucoup d'enjeux et comme on le disait, c'est aussi le pont vers l'agriculture telle qu'elle existe dans le milieu rural et les deux se s'inter enrichissent, on va dire. Mais en tout cas, il y a un gros enjeu de connaissance déjà de ce secteur pour des urbains qui peuvent en être parfois éloignés.
Et oui, c'est sûr qu'on ne voit pas passer les lapins et les cochons dans les rues de Paris. Alors, de la graine à l'assiette, j'aime bien cette expression. Mais bon, vous êtes aussi une formation professionnalisante sur l'écologie. Alors, comment l'agriculture urbaine, celle que vous développez au sein de vos formations, peut-elle contribuer à la lutte contre le changement climatique? Qu'est-ce que vous leur racontez à vos élèves, finalement? Marine Veller, Séverine, Marine.
Oui, je peux répondre. C'est un secteur, comme plein d'autres secteurs prioritaires, qui doivent se verdir. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des pratiques qui existent depuis longtemps et plein de pratiques qui ont été très vertueuses pour l'environnement et qui parfois le sont un peu moins aujourd'hui avec tout un tas d'enjeux industriels. Mais l'idée, c'est de retourner vers des pratiques qui sont plus respectueuses de l'environnement. Et donc, c'est des métiers très anciens que l'on connaît, mais dont on doit changer les modalités d'exercice pour permettre, potentiellement de favoriser l'agriculture biologique par exemple ou des façons peut-être un peu moins émettrices de travailler la terre en termes d'émissions carbone. Il y a plein d'enjeux. Il y a aussi un gros enjeu au-delà de ça si je suis orientée insertion, qui est le renouvellement générationnel dans ce secteur, parce qu'il y a un départ massif à la retraite des agriculteurs et agricultrices, avec souvent des gens qui désespèrent de savoir comment vont être reprises leurs terres agricoles, avec une concentration des espaces, des parcelles. Donc il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'opportunités, et c'est parfois un secteur qui n'a pas toujours le vent en poupe, ou en tout cas on essaie de redorer aussi l'ensemble de ces métiers manuels. Il n'y a pas que les métiers de l'agriculture qui en souffrent. Donc il y a un gros travail de sensibilisation au fait que ce sont des métiers essentiels à la transformation écologique et puis juste à la survie humaine, parce que c'est comme ça qu'on se nourrit, comme on le disait. C'est un gros travail de faire passer ce message-là.
Donner à voir envie. Nos agriculteurs ont besoin d'aide, ont besoin d'être soutenus, et puis ont besoin, à terme, que certains prennent le relais. Voilà. Alors, justement, on parle des rapports entre ces jeunes et ces anciens, puisqu'il s'agit de ça aussi, comment faire cette transition entre les jeunes et les anciens. Je voudrais aussi aborder la cohésion sociale de l'agriculture urbaine, parce que vous êtes là sur vos prés carrés dans Paris, en train de cultiver, en train d'apprendre. Mais dans votre école, quel lien vous faites entre agriculture urbaine et cohésion sociale? Qui veut répondre à cette question? Marine? Séverine?
En fait, la vocation même de ces espaces, de ces jardins partagés sur les toits, au pied des immeubles, ils ont la vocation de créer du lien social. L'idée, c'est que les gens osent descendre et qu'à travers ce jardin, les gens se parlent, programment des choses ensemble, transforment la nourriture. Enfin, le jardin partagé porte bien son nom. Enfin, l'idée derrière, c'est de cultiver ensemble et de faire ensemble. Donc la cohésion sociale, elle est au cœur du projet de l'agriculture urbaine.
Au cœur du projet de l'agriculture urbaine, vous l'avez très bien raconté, Séverine. Nous avons cité un chiffre en début d'émission assez impressionnant quand même, fourni par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui projette à l'horizon 2030 un gisement d'emploi de 350 000 personnes. Voilà. Quels sont les débouchés après votre formation? Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut créer son propre projet? Est-ce qu'on peut trouver un emploi comme salarié quelque part? Que nos auditeurs, nos auditrices puissent comprendre, et si certains jeunes sont dans leur entourage, qu'ils puissent peut-être aussi leur proposer ce que vous leur proposez. Racontez-nous, Marine Veller.
Je pense pouvoir répondre à deux avec nos deux casquettes. Premièrement, sur le premier chiffre qui a été donné, il y a une dernière évaluation qui est encore plus impressionnante, parce que là, on quantifiait la création d'emplois nets, sachant que pour transformer tout le modèle économique et rendre tout ça beaucoup plus compatible avec une transition écologique, il y a toutes les personnes qui sont déjà en emploi qui devront être formées. Et là-dessus, le secrétaire général à la planification écologique a sorti un autre chiffre en juillet 2024, et dans des secteurs prioritaires tels que les transports, l'industrie, l'agriculture, les énergies, il va falloir former 2,8 millions de personnes d'ici 2030. Et parmi ces personnes à former, chiffre très important, c'est 90% d'emplois de techniciens, techniciennes ou d'ouvriers, ouvrières. Donc c'est pour ça que nous, on a vraiment à cœur de se positionner sur les métiers manuels, parce que ce sont les métiers pivots de cette transition écologique. Donc il est temps de redorer le blason de ces métiers-là. Et je vais pouvoir laisser ma collègue Séverine vous dire un peu plus sur les débouchés, vu que c'est elle qui accompagne bien plus que moi au quotidien les jeunes vers leur sortie de parcours.
Séverine?
Oui. Alors, les jeunes, après 3 mois de formation professionnalisante à l'école, ils ont découvert plein de métiers, et ils ont eu aussi le temps de construire étape par étape leur projet professionnel, parce que le but des formations, c'est bien sûr d'acquérir des compétences techniques, mais c'est de réussir à articuler, construire étape par étape sa suite de parcours, donc son projet professionnel, de manière individualisée. Ça, c'est vraiment un accompagnement personnalisé.
En plus clair, comment trouver du boulot ou comment créer son boulot?
Oui, alors certains trouvent un emploi en sortant, les ont les chantiers d'insertion peuvent être une première étape vers l'emploi. L'idée, c'est qu'ils s'orientent aussi vers un parcours diplômant qualifiant. En général, ce sont des formations type CAP, Bac Pro, ça peut être des BTS aussi en aménagement paysager, mais on reste quand même sur des parcours concrets d'ouvriers, ouvrières ou techniciens, techniciennes, souvent en alternance, ce qui permet d'être dans une continuité pédagogique. L'alternance, c'est 3 semaines en entreprise, 1 semaine en centre de formation, il y a une rémunération, c'est un projet professionnel qui permet aussi d'être allié avec un projet de vie qui va vers l'autonomie, l'indépendance. C'est quand même important quand on a 20, 23, 24 de pouvoir se projeter aussi en dehors du domicile familial.
L'alternance qui est un vrai sujet, un vrai débat parce que les entreprises commencent à rechigner et reculer. Les pauvres élèves, quand ils s'inscrivent dans des cycles de formation, ont besoin d'une alternance et c'est pas toujours évident et ça l'est même de moins en moins, mais ça on l'abordera peut-être dans une autre émission. Alors on continue avec vous, Séverine Rinaldi, quel boulot, quels emplois ils peuvent trouver? Est-ce qu'ils sont obligés de quitter la ville, ils sont obligés de partir à la campagne s'ils veulent travailler dans l'agriculture?
En général, les jeunes, ils y vont étape par étape, c'est-à-dire que d'abord, on reste au niveau local. Et souvent, ils viennent puiser au sein des structures qu'on a visitées, rencontrées ensemble dans le cadre de la formation. Parce que l'idée, c'est aussi...
Alors, c'est quoi ces structures? Qui sont-ils? Qui sont-elles?
C'est des fermes, je pense à Paysans Urbains, je pense à Topager, je pense à SPRM, les Jardins sur les Toits. Il y a aussi un volet transformation d'alimentation. Donc cette année, il y a eu un partenariat avec une école.
Paysans Urbains, où est-ce qu'ils sont installés?
Alors, Paysans Urbains, c'est un lieu magnifique. Hein. Je vous invite à y aller, d'ailleurs.
Alors, vous ne gênez pas. Allez-y, racontez-nous.
Donc, ils sont dans le 19e. C'est un chantier d'insertion. Donc, il y a plusieurs activités au sein de cette ferme. Il y a de la micro-pousse, il y a du maraîchage. Il y a bien sûr un volet animation, sensibilisation. Il y a aussi tout ce qui est fleurs comestibles et transformation d'alimentation. Donc on y va, effectivement, permettre aux jeunes d'élargir leur vision de l'agriculture urbaine. Et l'idée, bien sûr, c'est que en échangeant avec les professionnels, en allant sur différentes structures, ils puissent à un moment donné se dire, bah tiens, en fait, moi, le jardin sur les toits dans le 19e, j'irais bien faire quelques heures de bénévolat ou bien postuler en service civique ou bien voilà, j'irais bien aller un petit peu plus loin en tout cas dans cette démarche pour mieux connaître et faire évoluer mes représentations et aller vers des métiers de l'agriculture urbaine.
Vers les métiers de l'agriculture urbaine, ça tombe bien, vous me tendez la perche. Quelles conseils vous pourriez donner l'une ou l'autre à quelqu'un qui voudrait, bon, après avoir travaillé le sujet, après avoir été formé, après s'être informé, avoir rencontré les professionnels, tout le parcours que vous venez de décrire, quels conseils vous pourriez donner à celui qui a envie de lancer un projet dans l'agriculture urbaine? Marine ?
Je peux répondre effectivement pour donner un peu une cartographie des étapes. Nous, on s'insère en complémentarité avec pas mal d'autres acteurs pour faire un parcours étape par étape, comme on le disait. Donc voilà, nous, on est avec des jeunes qui arrivent avec un fort besoin d'accompagnement. Si une envie, parce que là, on est plutôt axé sur des projets d'entreprise individuelle ou d'entrepreneuriat, c'est quand même pas la majorité des jeunes qu'on accompagne, il faut le dire. Mais en tout cas, si c'est le cas... On a mentionné tout à l'heure Veni Verdi, comme vous le disiez. On a été lauréat d'un appel à projet qui s'appelle Paris Fertile. Et à cette occasion, on a pu vraiment travailler en se disant voilà, quelles sont les briques nécessaires si jamais il y a un projet de se lancer dans une exploitation agricole. Et dans ce cadre-là, la première étape chez nous, c'est découvrir un secteur. Ensuite, c'est peut-être de se former, comme le disait ma collègue, avec une formation certifiante à un emploi. Et ça peut être passer le brevet de responsable d'entreprise agricole. Et dans ce cadre-là, après, il faut faire une étude de la faisabilité, étude de terrain. Et donc, il y a d'autres structures comme Ferme d'Avenir, le Champ des Possibles, qui accompagnent jusqu'à l'entrepreneuriat, jusqu'à la concrétisation d'un projet de porter une entreprise agricole. Mais ça prend quand même du temps et ça se construit étape par étape. Et chacune des structures est à même, selon le degré de maturité du projet, d'orienter vers les autres briques d'accompagnement pour y arriver.
Et oui, petit à petit, l'oiseau fait son nid et petit à petit, les carottes poussent. Alors, j'aimerais revenir à votre école. Vous avez probablement un projet phare, quelque chose qui vous tient à cœur dans l'école, j'en suis sûr. Racontez-nous, qui veut me répondre là-dessus, Marine, Séverine?
On peut faire une réponse à deux voix. Alors, il y a eu au cours de chacune des formations, donc tout de suite, les jeunes sont invités à pratiquer. Et l'idée, pour que ce soit en conditions réelles, c'est de répondre au bout d'un moment, quand on a acquis pas mal de compétences, à des chantiers un peu en conditions réelles pour que ce soit qu'on s'organise en équipe, répondre à une commande, faire un projet. Et c'est quelque chose d'assez valorisant. Et généralement, on propose des projets assez originaux. Et lors d'une formation au métier du bois, on a quand même réussi à construire un petit voilier avec les jeunes. Je pourrais laisser ma collègue un peu en parler, mais c'est pour dire que ce sont des jeunes quand même qui n'avaient, on le rappelle, dans les prérequis, il n'y a pas de compétences techniques à avoir. Donc pour la grande, grande majorité, pas manier du bois, et qui, à l'issue de 6 semaines, ont réussi, avec bien sûr l'accompagnement d'architectes navals, réussi à construire un petit voilier pour 2 personnes. Et on l'a fait naviguer. C'est d'ailleurs Séverine qui a pu faire le premier essai. Donc je peux la laisser en parler. Mais voilà, les jeunes ont été vraiment remarquables, très impressionnants de persévérance et de pour leur capacité à mener à bien ce chantier sans avoir vraiment mis les mains dans le travail du bois avant, quoi.
Alors Séverine, la route du Rhum, c'est pour bientôt? Vous vous préparez avec votre équipe?
Alors du coup, c'est vrai que c'était une super aventure. Merci Marine d'avoir mis ce projet à
Il est où ce bateau?
Il est là.
Mais où ça là? Dans quelle mer il navigue?
La Seine. On l'a mis à l'eau, effectivement. C'était l'année des Jeux Olympiques. Du coup, on n'a pas pu le faire naviguer sur la Seine, mais c'est l'idée, parce qu'il y a un petit projet derrière cette construction de bateau. Il y a un projet culturel un peu militant qui serait de permettre aux Parisiens et Parisiennes de pouvoir naviguer avec leur... petit voilier, canoë, de temps en temps, genre une ou deux fois par an, que cette Seine soit ouverte à la pratique du bateau plaisance pour les Parisiens.
La bouteille est lancée à la mer. S'il y en a que ça intéresse de naviguer, vous contactez l'écolettre. Alors, vous attendez un petit peu que tout soit au point quand même. Et, alors, je suis le premier partant, hein, si vous en êtes d'accord, Séverine. N'hésitez pas, hein, vous m'appelez, j'arrive en courant.
Celui-là, c'est vrai que c'était le 4-5e bateau qui était construit, donc celui-là est vraiment au point. On a réalisé avec d'autres promos les prototypes, vraiment les premiers prototypes de canoë canoë en bois, bien sûr, aussi avec méthode traditionnelle d'assemblage, etc., etc. On a quelques ajustements à faire pour les canoës.
Si vous me le permettez, mesdames, nous allons faire à nouveau une petite halte avec une deuxième pause musicale. Alors qu'actuellement les armes font rage de ci de là dans notre monde très perturbé, je vous propose un retour en arrière dans les années 60. Et plus précisément en 1962, originaire de Londres, le groupe qui va nous interpréter la chanson qui va suivre a pour nom, à ses débuts, The Spectre. Après un certain nombre de changements, ils adoptent définitivement le nom qui fera d'eux un groupe mythique avec succès et avec plus de 60 tubes classés dans les charts du Royaume-Uni, dont 22 qui vont atteindre le top 10. Mais alors que la chanson qui va suivre connaîtra un chemin semé d'embûches, et oui, après plusieurs versions enregistrées par plusieurs groupes, nous voici en 1981, bien plus tard. Le groupe rock britannique, avec son nouveau nom, enregistrera à son tour le titre qui va suivre. Le succès est immédiat avec cette version qu'ils interpréteront, alors que plusieurs autres groupes qui l'avaient interprété, dont Boland Boland, n'auront aucun succès. Cette version, elle fait exploser les ventes, c'est le déclic. Une interprétation plus accrocheuse qui déménage, Réglé comme du papier à musique, c'est près de 75 millions d'exemplaires vendus pour ce single. Interprété par Statu Quo, le titre c'est In the Army. Et c'est sur Aligre FM, dans l'étincelle, dans la vie.
Messagerie de l'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Aligre FM. Laissez-moi votre message juste après le bip.
Messagerie, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Voilà, c'était In the Army Now, interprété par le groupe britannique Statu Quo. Vous êtes toujours sur Aligre FM dans l'étincelle dans la ville et pour celles et ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes à Être, l'école de la transition écologique de Paris, qui organise des formations en agriculture urbaine et durable, d'autres formations, vous nous l'avez raconté, Marine et Séverine, école située et installée, je le rappelle, dans le tiers-lieu Césure à Paris, dans le 5e arrondissement, 13 rue de Santeuil. Vous restez bien avec nous pour cette dernière partie de cette émission, consacrée quand même en grande partie à l'agriculture urbaine. Nous avons vu avec une série de questions que finalement cette agriculture urbaine, elle est là, et bien là, à Paris, et d'ailleurs dans plein d'autres villes de France, dans plein d'autres métropoles. C'est un phénomène d'ailleurs assez étonnant. Ça fleurit de ci, de là, c'est silencieux. Les carottes, on ne les entend pas pousser, hein, c'est clair. Mais c'est comme une lame de fond qui envahit pour notre plus grand bonheur les terrasses, les toits de nos bâtiments urbains, mais aussi des lieux les plus improbables. Hein. Depuis que je réalise des émissions sur les fermes urbaines, j'ai découvert des endroits incroyables. Séverine Rinaldi, je rappelle pour nos auditeurs et nos auditrices que vous êtes en charge de cet accompagnement socio-professionnel à l'école de la transition écologique de Paris, mais vous allez aussi sur place pour voir comment ça se passe. J'aimerais qu'on parle des quartiers populaires, parce que qui dit ferme urbaine dit aussi l'endroit où on s'installe, ça dit aussi qu'est-ce qu'il y a autour. Comment Être Paris s'adresse-t-elle aux habitants de ces quartiers pour les sensibiliser à l'agriculture urbaine? Marine, Séverine, Marine.
Oui, alors nous on est effectivement situé dans le 5e, donc pas exactement près des quartiers populaires. On travaille vraiment main dans la main avec les équipes de développement local de la ville de Paris et les associations, les structures qui sont sur place. L'idée, c'est de se rapprocher des acteurs qui existent déjà et qui, du coup, voient passer pas mal de public, s'associer à eux pour leur faire découvrir justement ces métiers-là.
C'est qui les acteurs ?
Ça peut être des centres sociaux, des associations de quartier, des clubs de prévention, vraiment beaucoup de structures avec lesquelles on travaille. Et là, par exemple, cet après-midi, on se rend à un forum qui est organisé dans le 13e, justement, pour promouvoir pas mal de métiers qui ne sont pas toujours connus des jeunes, notamment les métiers, ça va être l'agriculture urbaine et des énergies renouvelables. Et le but est d'aller faire des animations sur place, même si nos locaux ne sont pas situés là-bas, et de leur montrer ce qui est possible et de les inviter à venir s'inscrire en formation si jamais c'est des parcours qui peuvent les intéresser.
Eh bien justement, pour mener à bien vos professionnalisations, vous nouez des partenariats. Alors, quels sont les partenaires clés avec qui vous avez monté des liens, vous avez créé des liens, des municipalités, des associations, quel rôle jouent-elles finalement? Qu'est-ce qu'elles vous proposent? Qu'est-ce qu'elles vous offrent? Et qu'est-ce que vous leur offrez? Qui veut répondre? Marine?
Et on a plusieurs types de partenariats. Il y a d'abord les partenariats institutionnels.
Lesquels ?
Alors, la ville de Paris, pas mal de collectivités, la ville de Paris, la région notamment, qui sont quand même des acteurs assez clés dans le domaine de l'insertion, de la formation professionnelle. Donc ça peut être via des financements, la promotion de nos actions, de nous aider, nous conseiller, notamment pour notre implantation, des partenariats aussi sur la réalisation de chantiers, parce que les jeunes ont pu aussi mener à bien des chantiers au profit des collectivités. Donc ça, c'est vraiment super. Il y a les partenaires aussi autour de l'orientation des jeunes, parce qu'on fait de l'aller vers, mais en fait, on travaille main dans la main avec le service public de l'emploi, donc les missions locales qui sont sur le volet insertion des jeunes, donc vraiment notre interlocuteur privilégié sur ce sujet. Il y a aussi France Travail et plein d'autres associations qui accompagnent les jeunes. Et donc ces personnes-là, notre travail aussi, c'est de leur montrer toutes les opportunités qu'il y a dans ces secteurs de la transition écologique, pour qu'après, ils puissent nous orienter pas mal de jeunes qui pourraient être intéressés par ces métiers. Et évidemment, vu ce qu'on propose aux jeunes, c'est d'ailleurs une insertion professionnelle. On conçoit en amont du développement de notre formation tous les modules pédagogiques pour que ça réponde aux besoins des entreprises. Donc ça veut dire, on a parlé de la formation bois par exemple, c'est travailler avec la filière bois en Ile-de-France pour faire remonter les besoins d'emploi, les besoins de compétences, intégrer toutes ces compétences à travailler dans notre programme de formation, être en lien avec des entreprises pour que ça donne lieu à des stages et à des alternances. D'ailleurs, on le disait, hein, c'est, même si c'est un grand sujet l'alternance, l'idée c'est qu'on puisse constituer un premier réseau, parce que c'est très compliqué quand on est jeune de trouver une alternance, donc c'est un peu notre rôle. Je pense que j'ai un peu fait le tour des partenaires, mais l'idée c'est que ça puisse être un parcours fluide pour que derrière l'insertion se passe bien, et donc d'être main dans la main avec des organismes de formation qui proposent des diplômes, vu que nous on est sur la brique pré-qualifiante, donc que les organismes de formation qui soient qui on rend visite en formation et les professionnels également qui viennent intervenir ou qu'on voit sur le terrain puissent constituer des suites de parcours pour les jeunes.
Vous nous avez bien décrit le parcours, mais j'aimerais qu'on retourne à l'assiette, hein, avec ce qui sort de la terre, de ce qui pousse dans la terre, les carottes là, dont je parle depuis tout à l'heure, et les productions issues de cette agriculture urbaine. Sur le marché national, peut-on dire que cette agriculture urbaine participe à la souveraineté alimentaire pour tous? Qui a un avis là-dessus? Qui veut répondre? Séverine ?
Oui, je peux répondre. Bon, l'agriculture urbaine, elle n'a pas vocation à nourrir, nourrir les habitants. Elle a vocation à faire découvrir de nouvelles saveurs. Elle a vocation à sensibiliser les habitants du quartier. Elle a vocation à créer du lien social, on l'a dit tout à l'heure. À créer aussi des circuits courts, à prouver que c'est possible, en fait, même en étant en ville, d'aller picorer quelques tomates au jardin d'à côté. Mais elle n'a pas vocation à nourrir les habitants du quartier. Voilà, c'est pas cette démarche-là, quoi.
Séverine, Marine, j'aimerais aussi qu'on parle de l'eau. L'eau qui est un enjeu, un gros enjeu. Comment vous conciliez, comment vous expliquez à vos élèves tous ces enjeux sur l'eau dans l'agriculture en général et celle des villes? Alors, qui veut répondre?
Oui, je pense que c'est un sujet de toute façon assez transverse dans pas mal de formations, la gestion responsable des ressources. Alors évidemment, en matière d'agriculture et d'agriculture urbaine aussi, c'est un enjeu qui est énorme, qui est central. Et c'est quelque chose... On essaie de trouver... la formatrice répondrait mieux que moi à cette question, mais l'idée, c'est d'avoir les systèmes les plus durables possibles, que ce soit, on le voyait dans les pratiques agricoles, que ce soit l'utilisation de l'eau, l'utilisation de fertilisants ou autre. Voilà, on revient souvent à des techniques parfois qui sont un peu ancestrales pour arriver à garder un système qui soit tenable dans la durée, parce que le but, c'est quand même si, bien sûr, l'agriculture urbaine, comme disait ma collègue, c'est un enjeu qui est un peu différent en termes de volume et par rapport à l'agriculture sur l'ensemble du territoire national, mais dans tous les cas, l'économie des ressources, et notamment de l'eau, voilà, c'est une bonne utilisation avec parcimonie, et c'est un enjeu énorme qu'on transmet aux jeunes, ça c'est sûr. Ouais.
Un enjeu énorme qu'on transmet aux jeunes. J'aimerais aussi voir les enjeux des élus, qui sont probablement peut-être un petit peu moins jeunes. Quel est votre rôle vis-à-vis d'eux? Est-ce que vous les formez? Est-ce que vous les sensibilisez? Est-ce que vous les interpellez? Racontez-nous.
Sur la collectivité parisienne, on a quand même beaucoup de chance parce que les élus sont on trouve, très mobilisés. Et c'est, je le mentionnais tout à l'heure, un dispositif qui s'appelle Paris Fertile, donc qui est porté par la ville de Paris et qui vise à soutenir des initiatives un peu innovantes de sensibilisation, de formation à destination de publics variés en insertion. Et on sent qu'il y a vraiment une volonté de promouvoir ces façons de faire, qu'il y a comme ça peut être le cas sur les énergies renouvelables ou d'autres thématiques, il y a un vrai virage qui est souhaité. Après, évidemment, il y a toujours la question des moyens mis derrière, il faudrait que ce soit plus sur pas mal de secteurs, évidemment. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté de prendre ce virage de la transition écologique, de végétaliser les espaces et de promouvoir une agriculture qui soit bien plus durable, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Donc l'intention est posée, sincèrement. Après, c'est toujours une question de moyens accordés et la transition écologique fait partie de... des choses à prioriser, ça c'est sûr que c'est notre façon de penser. Et la formation, il faut le concevoir non pas comme une conséquence de la transition écologique, mais pour moi c'est vraiment une condition sine qua non de cette transition de l'économie.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
On l'a vu, ça a été un sujet énorme pendant la période du Covid. En fait, on ne forme pas des gens du jour au lendemain, même si ça peut être des formations courtes, professionnalisantes. Il faut mettre les moyens derrière la formation le plus tôt possible. Et c'est comme ça qu'avec des personnes formées, des compétences plus vertes, on va pouvoir transformer l'économie française.
Vous le résumez bien, il faut donner du temps au temps, Marine Veller. Séverine Rinaldi, Marine, l'étincelle dans la ville va bientôt se terminer. Mais avant de clôturer cette émission, j'aimerais vous dire deux mots sur l'endroit où nous trouvons. Voilà, nous sommes donc au tiers-lieu Césure, j'en ai parlé tout à l'heure. Lieu axé sur la transmission des savoirs et savoir-faire, un espace qui a été mis à la disposition d'associations gérées par Plateau Urbain en partenariat avec Yes We Camp. Il s'agit d'un espace de 25 000 m² qui abrite près de 200 structures, parmi lesquelles des artisans, des associations, des jeunes entreprises, des structures de l'économie sociale et solidaire, où se côtoient chaque jour près de 2000 étudiants de 5 écoles différentes. Il s'agit d'un véritable terrain d'expérimentation destiné à inventer de nouvelles manières, d'apprendre les unes des autres, de lutter contre les précarités. Il y a également ici une programmation culturelle, artistique, festive, dans une multitude d'espaces, avec une cantine, une buvette joyeuse conçue consciente, engagée pour l'alimentation durable et solidaire. Et une boutique Emmaüs, et un amphithéâtre, et un grand plateau de 2000 m². Ouais, il y en a des choses ici. Et bien sûr, tout au long de l'année, plein d'événements. Voilà, je voulais faire ce petit point pour nos auditeurs. Pour en savoir plus à propos du tiers-lieu Césure, où nous trouvons actuellement, il suffit simplement de taper Césure Paris dans votre moteur de recherche. L'étincelle dans la ville va se terminer. Mais avant de nous quitter, je voudrais dire un grand merci à tous nos invités, à toutes les deux. Vous avez répondu présent, vous avez bien voulu vouloir nous accueillir dans une ambiance sympathique, dans un endroit très convivial. Merci d'avoir bien voulu témoigner à propos de cette agriculture et de ces autres métiers d'ailleurs que vous avez évoqués. C'est en tout cas l'agriculture urbaine prometteuse qui se développe et qui forme. Bien sûr, c'est aussi le cœur de votre école. Pour celles et ceux qui désirent en savoir plus, il vous suffit simplement de taper sur votre moteur de recherche « Être Paris, j'imagine ».
Exactement. Et de nous contacter par téléphone, de venir nous voir dans les locaux et on s'arrangera pour présenter tout ce qu'on fait, rencontrer l'équipe pédagogique. Voilà, faut vraiment pas avoir peur de nous rendre visite à tout moment.
Vous serez les bienvenus. L'étincelle dans la ville va bientôt se terminer après toutes ces questions auxquelles nos invités ont bien voulu répondre. Des questions pleines d'enseignements, pleines d'avenir. Et moi, j'en ai appris des choses. Hein. Vous m'avez formé aujourd'hui, mesdames. En tout cas, pour ma part, c'était le cas. Je me suis branché. Voilà. J'espère qu'il en fut de même pour vous, chers auditeurs, chères auditrices. Vous souhaitez entrer en contact avec nous ou réécouter une émission? Pour cela, rien de plus simple. Il suffit d'aller sur le site de Radio Aligre, Aligre FM, à la réalisation technique Didier Robert, que je salue chaleureusement. Aligre FM est avant tout un espace d'expression, de partage, de rencontres et d'échanges animé par un collectif de gestionnaires, de journalistes, d'animateurs et de réalisateurs techniques libres, indépendants et tous bénévoles. Alors, toute l'équipe technique chargée des réalisations et des émissions, je les remercie. René Clancy, Yasmine Bendali, Jade Jiang, Armand Gury, Philippe Donnefort, Renaud Poussin de Wilt, Enrico Mastro Giovanni et son chef d'orchestre Bruno Mandé. Merci Séverine Rinaldi, merci Marine Veller. Aligre FM, c'est sur votre poste de radio, en FM, en DAB et sur le site web. Aligre FM, c'est une radio associative non commerciale, sans publicité commerciale, une radio libre qui fête ses 45 ans. C'est pas anodin, hein. 45 ans, c'est pas de la tarte, faites-moi confiance, je sais de quoi je parle. Et oui, alors tout au long de l'année, au micro d'Aligre, nous recueillons des paroles en prenant le temps de penser, de scruter, de contempler le monde dans toutes ses composantes. Vous souhaitez souvenir Aligre FM? Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur le site internet de la radio et vous pouvez tout simplement faire un don, il n'y a pas plus simple. Merci à notre partenaire Le Moment qui nous accueille dans son studio et qui réalise l'émission qui a pour titre Le Moment. À la post-production, Didier Robert, Stéphanie Malaret et Gaspard Proudhon, il ne me reste plus qu'à simplement à vous dire au revoir et à prendre congé de vous. Au revoir Séverine.
Bah, au revoir Francis.
Au revoir Marine.
Au revoir et bonne journée.
Voilà, tenez-nous au courant hein, toutes les deux de la suite des événements de votre école de la transition écologique. Et bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur Être Paris, je le redis, ou sur le tiers-lieu Césure, vous tapez sur votre moteur de recherche Être Paris ou Césure, l'un et l'autre, et vous trouverez toutes les infos. Pour ma part, lundi prochain à 9h, on se retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle étincelle dans la ville. Émission réalisée, je le répète, 13 rue de Santeuil dans le 5e arrondissement de Paris, à Césure, qui abrite l'école de la transition écologique de Paris, ETRE. Nous y avons été merveilleusement bien accueillis, mais pour le coup, en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne pour aujourd'hui, l'étincelle dans la ville, c'est terminé.